Radio Kapi. Oh, Kapi.
Troisième jour hier, mercredi, des échanges dans le cadre des consultations politiques menées depuis lundi par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Au menu de la journée d'hier, la question de la restructuration de l'Union sacrée ainsi que celle des critères majeurs pour la formation du prochain gouvernement d'Union nationale. Une série de formations gratuites en divers métiers en faveur d'environ 10 000 enfants des militaires et policiers, annonce faite hier par le ministre de la Formation professionnelle au cours du briefing de presse tenu avec son collègue de la communication et médias. C'est pour améliorer les conditions de vie des services de sécurité et leurs dépendants. Margot Grélet, coordinatrice de Médecins sans frontières dans la ville de Goma, est l'invitée de ce journal. Elle revient sur les conditions dans lesquelles se trouvent les ménages retournés dans leur milieu d'origine qui vivaient auparavant dans les camps autour de Goma. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. La question de la restructuration de l'Union sacrée ainsi que les critères majeurs pour la formation du prochain gouvernement censé mettre fin aux agressions à répétition du Rwanda, ce sont les deux points qui sont revenus hier mercredi lors des échanges entre les plateformes politiques proches du chef de l'État et son conseiller spécial en matière de sécurité, Désiré Kachmir Eberhan de Kolongele. Échange qui rentre dans le cadre des consultations politiques en cours. La plateforme politique de Didier Manzenga conseille de mettre un terme à la nouvelle structure dirigeante de l'Union sacrée car elle ne favorise point la cohésion. Billy Van Lutumba.
Pour combattre l'agresseur rwandais, le Palou admet que la mobilisation au sein de l'Union sacrée est la bienvenue. Dans cette logique, il est utile que le conseiller spécial Kolongele rapporte au président de la République la frustration dans la majorité qui le soutient en rapport avec la nouvelle mise en place au sein de l'Union sacrée. Didier Manzenga.
43 membres qu'on appelle quoi président, mais ce sont des co-présidents. S'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut parler. Mais ça, franchement, il a loupé à la vision président de la République sur la restructuration des réunions sacrées. 43 co-présidents, il faut co-présider qui? Il faut que ça soit corrigé.
Pour sa part, le regroupement 4AC au sein duquel se trouve Peter Kazadi et Eliezer Tambwe insiste que les principes cardinaux qui régissent la RDC doivent être démis pour former le futur gouvernement. Peter Kazadi.
Il s'agit d'abord de la suprématie de notre constitution, qui est notre droit fondamental, le fondement de notre vie, de l'attachement à l'intégrité de notre territoire, de nos frontières, d'altérité à la colonisation, parce que ces gouvernements doivent défendre l'avenir de notre pays aujourd'hui menacé par l'agresseur rwandais.
Parmi les autres plateformes politiques reçues hier mercredi figurent CODE de Jean-Lucien Boussa, AEC, celui auquel appartient Cherokee Tundu, AACPG de Pius Mwabilu, ainsi que le PALU, celui de Willy Matiashi.
Et puis depuis le Nord Kivu, le député provincial honoraire Eze Kanendu plaide auprès du président de la République pour la libération de 3 députés provinciaux du Nord Kivu. Ils ont déjà passé plusieurs mois en détention à Kinshasa sans comparaître. Alain Siwako, élu à Lubero, et Alain Aliongera, élu du territoire de Walikale, et Ope Sabini de Rutshuru ont été respectivement arrêtés en 2022 et 2023 à la suite de leurs propos critiques envers l'état de siège institué au Nord Kivu et en Ituri. Le député provincial honoraire Eze Kanendu demande au chef de l'État de s'impliquer pour qu'il soit libéré. Ces propos ont été recueillis par Bernard Danyangi.
Ces acteurs politiques et animateurs de la société civile ont été arrêtés à Goma avant d'être transférés à Kinshasa et suite d'avoir critiqué l'inefficacité de l'état de siège. Et jusqu'à présent, ils n'ont jamais été présentés devant leur juge naturel afin de connaître leur sort. Nous sommes au total 2 collègues députés provinciaux de la législature de 2018 et 1 réélu à la législature de 2023 arrêtés de suite d'avoir extériorisé leur opinion politique. Cette situation sonne de glace aux principes démocratiques et à l'état de droit prôné par le chef de l'État. C'est pourquoi nous sollicitons encore une fois l'implication personnelle du chef de l'État pour que ses compatriotes puissent recouvrer leur liberté.
L'ONG Femmes Autochtones et Communautés Locales pour le Développement Durable et Participatif, FACID, interpelle le gouvernement et ses partenaires face à l'urgence humanitaire dans l'est de la RDC. Dans une déclaration dont le contenu a été rendu public hier, au cours d'une conférence de presse à Kinshasa, cette organisation lance un appel pressant pour une mobilisation en faveur des femmes, des filles et des enfants, premières victimes des atrocités commises dans cette région en proie à l'instabilité. Ces femmes de l'ONG FACID demandent au gouvernement de tout mettre mettre en œuvre pour le retour de la paix dans cette partie du pays et à la MONUSCO de poursuivre les interventions en faveur de populations civiles, particulièrement des femmes et des enfants victimes des atrocités commises par les groupes armés dans les Kivu, précisément à Goma et à Bukavu. Dorothée Lisenga, coordonnatrice de l'ONG FACID, fait le point au micro de Bertin Kassiama.
Les cris de la femme de l'Est, les cris de l'enfant de l'Est, les cris de la communauté locale et les cris des peuples autochtones, et les cris stridents, et les cris à la quête de la paix suite à l'insécurité, au conflit armé qui prévaut à l'Est de la République démocratique du Congo. Les cris silencieux, la psychose et la perte de cadre viendra-t-on dans l'âme de tout citoyen congolais. Oui, les communautés locales, les peuples autochtones, les enfants. Nous allons citer si les personnes vivant avec handicap, quand le bruit des bottes sont en train de crépiter, à ce moment-là, la personne vivant avec handicap est à la merci de tout. Les albinos qui souffrent de tout, à ce moment-là, quand il y a les cris de détonation, quel est son sort sous ce soleil-là ardent au niveau de la République démocratique du Congo et tout souffle ou flamme. Les cris de détresse, la recherche de la sécurité, de la paix. C'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'il y ait la paix, une paix totale et une paix durable au sein de la République démocratique du Congo.
En Ituri, la situation sécuritaire se dégrade chaque jour un peu plus dans le territoire de Djougou. Depuis bientôt 2 semaines, on assiste à des affrontements réguliers entre les troupes de l'armée ougandaise UPDF et la milice locale de la Codeco. Plusieurs morts sont rapportés parmi les belligérants et même les déplacés, dont certains sites sont attaqués dans la région de Fataki. Une situation qui suscite des réactions au sein de la communauté. Les dernières en date sont celles des associations culturelles Ente et Lori qui regroupent respectivement les peuples Ema et Lendu. Le point depuis Bounia avec vous, Sadiki Aboubakar.
Dans sa déclaration devant la presse mardi, l'association culturelle Ente qui regroupe le peuple Hema déplore l'activisme des groupes armés en province de l'Ituri, caractérisé par des tueries, déplacements de la population et destructions méchantes. C'est dans ce contexte que l'association Ente dit soutenir la présence de l'armée ougandaise UPDF dans le territoire. Jean-Claude Ngadjolé est le président de Ente.
Soutenons de tout cœur nos forces de sécurité et de défense, les FARDC et leurs alliés UPDF, afin que la paix soit restaurée en Ituri.
De son côté, l'association culturelle Lori, qui représente les peuples Lendu, déplore l'absence de mutualisation des forces entre les FARDC et les UPDF dans les opérations menées dans la région de Fataki à Djougou. René Thiello a lu cette déclaration dont voici un extrait.
Constat amer fait l'inexistence de la mutualisation des forces caractérisées par le manque de coordination FARDC-UPDF à Fataki.
Signalons que lors de son arrivée lundi à Bounia, le chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements a annoncé des rencontres avec l'armée ougandaise pour justement harmoniser les positions des deux armées dans le cadre de cette mutualisation des moyens. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Nous voulons le retour de la paix car les conditions dans lesquelles nous vivons sont insupportables. C'est le cri d'alarme d'un déplacé du site de Djaïba à Fataki où sont regroupées des milliers de personnes victimes des affrontements entre la milice Codeco et l'armée ougandaise. Cet habitant qui a été joint au téléphone par Radio Okapi indique que des enfants, des personnes de troisième âge et des femmes passent la nuit à la belle étoile sans installation sanitaire ni eau potable. Il appelle le gouvernement à mettre fin à leur calvaire.
Les gens passent la nuit dehors, loin de leur domicile à cause des attaques des miliciens de Codeco. Pour les personnes qui sont malades, elles vont se faire soigner à Boulé, à 15 km plus loin, parce qu'ici, à Djaïba, il n'y a pas de structure sanitaire. En ce qui concerne les toilettes, les gens se soulagent la journée à leur domicile avant de rejoindre le site à la tombée de la nuit. S'agissant de l'eau potable, sur place, il n'y a pas d'eau à boire. Il n'y a pas de cours soignant ici. Si vous avez des problèmes de santé, il faut vous rendre à Boulé. Et il n'y a pas de sécurité ici. Nous voulons seulement le retour de la paix.
Le problème des maladies laissées par la grossesse, nous n'avons pas besoin d'une autre chose, mais nous, on a besoin de la paix seulement.
Le gouvernement de la République annonce le lancement d'une série de formations gratuites en divers métiers en faveur d'environ 10 000 enfants, des militaires et policiers. C'est le ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila, qui a livré cette information lors du briefing de presse hier mercredi à Kinshasa avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Selon lui, à travers ces formations, le gouvernement entend non seulement améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs dépendants, mais également remonter leur morale. Les propos de Marc Ekila sont recueillis par
par Planté Yambenga.
Nous avons lancé une autre campagne spécifique cette fois-là, dédiée essentiellement aux enfants ou aux dépendants des militaires. Et cette fois-là, ça sera 5 phases plutôt de 2000. Donc dans une échéance assez brève, nous comptons atteindre 10 000 enfants des militaires qui seront bénéficiaires de sessions gratuites de formation professionnelle. Nous avons déjà commencé à effectuer les descentes et je voudrais ici préciser que le deuxième prisme de ces sessions de formation gratuites consistant à descendre dans les camps militaires pour trouver, identifier des sites ou pour les centres à réhabiliter ou à construire est une instruction vraiment venue directement de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Après avoir identifié 23 camps dans la ville de Kinshasa, nous nous sommes mis d'accord pour commencer d'abord dans les jours qui suivent, dans les 2-3 semaines qui vont suivre, commencer les travaux dans 3 camps militaires, à savoir les camps Kabila, les camps Kokolo et puis les camps Tchatch où j'ai effectué les tournées il y a 48 heures. Donc Kinshasa est considéré comme une phase pilote justement. Donc nous allons déployer nos équipes en province.
Dans le cadre de la célébration de son 50e anniversaire, le Centre neuropsychopathologique de Kinshasa organise des consultations gratuites ce jeudi 27 et le vendredi 28 mars. Pour son médecin directeur, cette initiative reflète l'engagement du CNPP à servir la communauté et à sensibiliser la population sur l'importance de ce domaine médical souvent ignoré. Mais qui peuvent aller à ces consultations? Docteur Daniel Okitundu répond au micro de Trio Banzé et Moudoumbi Benjamin.
Le CNPP rend service à toutes les personnes qui souffrent de maladies du cerveau, maladies neurologiques comme on les appelle, dont le service de neurologie, le service de psychiatrie et le service de psychologie clinique comme l'épilepsie, les accidents vasculaires cérébraux, les différentes formes de paralysie. Il reçoit toutes les personnes qui ont la détresse psychologique. Le 27 et le 28, nous allons réaliser des consultations gratuites au CNPP. Les cas d'épilepsie, les séquelles d'AVC, les cas de consommation de drogue, les cas de paralysie, les cas de personnes qui gèrent mal les émotions, les sentiments sont les bienvenus au CNPP le jeudi 27 et le vendredi 28 de ce mois, de 9h jusqu'à 15h.
Le bureau central de coordination BCECO a réceptionné le mardi le bâtiment administratif du territoire de Mahagi en Ituri, bâtiment construit par l'entreprise New As Building dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, Sami Njakonga, qui a pris part à la cérémonie, affirme que cet ouvrage réaffirme l'autorité de l'État dans ce territoire. Sadiki Aboubakar.
Il s'agit d'un bâtiment composé d'une salle d'attente, d'une salle de réunion et de 16 bureaux destinés aux différents services administratifs. Seront désormais logés ici l'administrateur du territoire, ses deux assistants, la police, les services des renseignements, la salle informatique, l'intendant ou encore le service des archives. Tous ces bureaux sont équipés en meubles et matériel informatique. On y compte ainsi 20 ordinateurs, 15 imprimantes et 9 photocopieuses. Le chef d'antenne du BCECO en Ituri, Amouli Ramazani, affirme que le bâtiment est équipé d'un kit solaire de 5 kW et d'un système de sécurité anti-incendie. Rappelons que 2 autres bâtiments similaires ont été inaugurés à Mambasa et Irumu il y a quelques mois. Ils viennent s'ajouter aux écoles et autres structures sanitaires déjà construites dans les 5 territoires de l'Ituri. À ce jour, le BCECO affirme avoir atteint presque 65% d'exécution du programme de développement local des 145 territoires en Ituri. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, la télévision privée BF1, qui a diffusé un reportage sur le congrès extraordinaire à l'Association des journalistes du Burkina, AJB, a écopé d'une amende de 500 000 francs CFA. Quant au journaliste auteur du reportage, il est suspendu de toute activité audiovisuelle pour 2 semaines. C'est la décision du Conseil supérieur de la communication.
L'invité.
Radio Okapi reçoit la coordinatrice de l'organisation humanitaire Médecins sans frontières dans la ville de Goma. Margot Grelette revient sur les conditions dans lesquelles se trouvent les ménages retournés dans leur milieu d'origine et qui vivaient auparavant dans les camps autour de Goma. Elle apporte également des éclaircissements sur les actions prioritaires mises en place pour aider ces ménages installés dans des zones où certaines infrastructures de base ont été détruites à cause des combats entre belligérants. Margot Grelette répond aux questions de Ronéline Tibonera.
Madame Margot Grelet, bonjour. Bonjour.
Aujourd'hui, nous parlons de la situation humanitaire dans cette ville, mais également au niveau de la province du Nord Kivu. La population déplacée, vivant dans les camps autour de Goma, a été contrainte de rejoindre ses villages respectifs dans plusieurs territoires du Nord Kivu. Dans quelles conditions ces familles vivent-elles actuellement ?
Alors, les populations retournées sont aujourd'hui en difficulté dans leurs villages. Une partie de ces villages avait été vidée partiellement ou totalement et... Au cours de leur retour, la plupart des services étaient non fonctionnels, les infrastructures pour certaines étaient cassées dues au temps passé et au conflit, et notamment les systèmes de distribution d'eau dans les villages étaient endommagés. En parallèle, les populations recommencent doucement la culture pour celles qui ont accès aux champs, mais cela prendra plusieurs mois pour avoir des récoltes de violences basées sur le genre aussi pour les femmes vivant dans ces villages. Ils reviennent dans des villages qui n'ont pas été habités, donc les services sont non fonctionnels pour le moment, que ce soit les centres de santé, les réseaux d'eau, mais aussi tout ce qui est agriculture et moyens de subsistance. Donc il y a beaucoup d'enjeux pour la population pour retrouver une vie plus normale.
Comme rapporté par votre organisation, mais également d'autres acteurs humanitaires, il y a des infrastructures qui sont inexistantes, des structures de santé qui ont été affectées par les combats entre belligérants. Là, je parle de la cité des Sake. Quelles sont les actions que MSF mène en faveur de cette population victime des affres de la guerre?
Alors, au niveau de MSF, nous intervenons au niveau de la zone de santé de Kiroche. Nous avons envoyé des équipes mobiles sur place depuis le mois de février, avec l'objectif d'appuyer à la relance des centres de santé dans les principales aires de santé de la zone. Nous appuyons pour relancer la santé en nutrition, en santé mentale. En parallèle, on appuie aussi le ministère pour tout ce qui est gestion des épidémies, notamment sur les problématiques de choléra qui étaient déjà présentes dans la ville de Goma et qui se sont retrouvés également dans la zone de santé de Kiroche.
Lors de la chute de Goma, MSF a été en avant-plan pour apporter son appui à l'hôpital CBK Virunga pour la prise en charge des blessés de guerre. Vous avez annoncé la fin de ces programmes alors que des cas de blessés de guerre sont signalés dans la ville de Goma. Est-ce un abandon de malades?
La prise en charge des blessés au niveau de Goma a toujours été effectuée majoritairement par l'hôpital de CBK Ndosho. Le MSF était venu en appui à partir de fin janvier suite à un afflux massif de blessés, mais a été fermé après ça, puisque l'hôpital de Ndosho était en capacité de recevoir les blessés actuellement.
De nouveaux combats signalés dans le territoire de Walikale, mais également une partie des Massissi, ont contribué à un déplacement massif de la population. Aujourd'hui, on parlerait de plus de 16 000 personnes. Quelle action MSF mène-t-il sur terrain en faveur de ces ménages qui se sont déplacés?
Alors, au niveau des déplacements de suite au combat de Walikale, nous sommes présents au sein de la ville de Walikale depuis plus de 15 ans, où nous appuyons l'hôpital de Walikale ainsi que des centres de santé aux alentours de la ville.
Tenant compte des enjeux régionaux, quels sont les défis actuels auxquels vous faites face?
Donc, au niveau des défis actuellement, pour MSF, c'est les mêmes que depuis longtemps sur la zone, c'est toute la problématique d'accès aux populations, de fourniture de soins dans des zones à risque. Et voilà.
S'il faut parler des aspects liés à la santé, est-ce que vous estimez que vous avez des fonds suffisants pour combler les besoins dans cette région trouble?
Alors, au niveau des approvisionnements pour les intrants médicaux, MSF n'a actuellement pas d'enjeu particulier.
Et vous avez un message à adresser à la communauté humanitaire qui vous écoute à travers Radio Okapi.
Important d'essayer d'appuyer la population du Nord Kivu, mais aussi du Sud Kivu et du reste des populations en difficulté en RDC, et de ne pas oublier tout ça. Surtout les Kivu, mais également dans d'autres zones de la RDC.
Madame Margot Grélé, coordonnatrice de MSF basée à Goma. Radio Okapi vous remercie.
Merci.
À vous aussi, merci pour avoir suivi ce journal. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi, un journal mis en onde par Jean-Claude Nsiala. La coordination et la supervision sont signées Pelé Kipelamondo.